Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, les lipodystrophies. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Corinne Vigouroux. Professeur Vigouroux, bonjour.
Bonjour.
Professeur Vigouroux, vous êtes endocrinologue, coordonnatrice du centre de référence PRISIS, le centre de référence des pathologies rares de l'insulinosécrétion et de l'insulinosensibilité, localisé à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, au sein du service d'endocrinologie du professeur Christin Maître. Alors, professeur Vigouroux, nous évoquons aujourd'hui les lipodystrophies, et ma première question est très directe. Qu'appelle-t-on lipodystrophie ?
Alors, en fait, ce terme lipodystrophie désigne une anomalie du développement ou de la répartition du tissu adipeux de l'organisme, c'est-à-dire des graisses corporelles. Lipo pour lipides, graisse, et dystrophie, trouble du développement. Mais en réalité, c'est un terme assez générique qui regroupe des situations qui peuvent être très différentes. La plus fréquente, ce sont des lipodystrophies très localisées, aussi d'injections répétées. Par exemple, on peut voir des lipodystrophies chez des patients traités par l'insuline, qui se présentent sous la forme de zones indurées sous la peau, de petites boules sous la peau, qui peuvent d'ailleurs entraîner des défauts de diffusion de l'insuline, et qui sont évitées par le changement régulier des sites d'injection. Mais ce qu'on appelle lipodystrophie, cela peut aussi être des syndromes, c'est-à-dire des maladies qui vont toucher plus largement le tissu adipeux de grandes surfaces corporelles, de l'ensemble de l'organisme, et qui vont être associées à des anomalies du métabolisme du corps entier, c'est-à-dire des anomalies en particulier du stockage et de la disponibilité des sucres et des lipides dans le sang et dans les tissus de l'organisme. Et donc, ces lipodystrophies-là, ce sont des maladies qui peuvent être génétiques ou acquises au cours de la vie. Une cause relativement fréquente était représentée par les syndromes lipodystrophiques que l'on voyait apparaître sous l'effet des premiers traitements antirétroviraux utilisés pour traiter l'infection par le VIH. Et dans les autres formes de lipodystrophie, ce sont des maladies rares. Leur prévalence, c'est à peu près, elle est évaluée autour de 1 cas pour 100 000 personnes. Mais probablement, ce sont des maladies qui sont sous-diagnostiquées parce qu'il n'est pas toujours facile de les reconnaître, d'y penser et de faire le diagnostic.
Alors justement, quels sont les principaux symptômes des lipodystrophies ?
Alors les symptômes sont assez divers, en particulier suivant l'âge de l'apparition de la maladie. Les formes de lipodystrophie généralisée congénitale, par exemple, touchent des enfants qui naissent en fait sans tissu adipeux. Et qui ont fréquemment des signes généraux, comme des troubles digestifs, des difficultés alimentaires, et puis on les repère souvent parce qu'ils ont un diabète ou une hypertriglycéridémie, une maladie du foie avec une hépatomégalie, une hypertrophie musculaire, une cardiomégalie également, et un signe cutané, qui est l'acanthosis nigricans, qui est un signe en fait qui se présente sous la forme d'une peau épaissie et brunâtre au niveau des plis corporels. Donc cette maladie, elle peut être méconnue chez l'enfant et on peut même la diagnostiquer chez l'adolescent ou chez l'adulte. Et dans les formes de lipodystrophie qu'on diagnostique chez l'adulte, qui peuvent être aussi des formes partielles, la lipodystrophie peut atteindre tout le tissu adipeux de l'organisme ou seulement certaines parties. Et elle peut s'associer aussi à des zones de lipohypertrophie, c'est-à-dire d'accumulation de graisse corporelle, par exemple au niveau du visage, du cou, des zones axillaires, dans des formes qu'on appelle des lipodystrophies partielles. Donc, vous voyez, la lipodystrophie elle-même, elle peut se manifester sous des formes cliniques différentes, et puis elle peut être méconnue à l'examen clinique où les personnes peuvent consulter pour autre chose. En particulier donc pour une hépatomégalie, des poussées d'hypertriglycéridémie avec des pancréatites aiguës, des troubles du cycle menstruel chez les femmes, un syndrome des ovaires polykystiques, dans certaines formes des anomalies cardiaques, et puis bien sûr le diabète qui est souvent un point d'appel, un diabète qui est atypique, qui n'est pas un diabète lié à un défaut de sécrétion d'insuline, alors que les patients sont plutôt minces, en général minces. Donc voilà, des signes assez divers qui doivent faire penser à cette maladie.
Et comment est-ce qu'elle survient, cette maladie ? Quelle est la physiopathologie de l'hypodystrophie ?
Alors en fait, globalement, c'est une anomalie de l'adipocyte, c'est-à-dire une anomalie du tissu adipeux, et dans le tissu adipeux de la cellule, l'adipocyte qui est spécialisée dans le stockage de l'excédent énergétique alimentaire qu'on stocke sous la forme de triglycérides dans la gouttelette lipidique de l'adipocyte. Et l'adipocyte est capable de gérer ce stockage et de libérer des acides gras à partir des triglycérides stockés dans cette gouttelette lipidique lorsque l'organisme en a besoin, en particulier à distance des repas. Et donc, dans les lipodystrophies, ce qui se passe, c'est qu'il y a un défaut primitivement adipocytaire qui peut être un défaut de différenciation de l'adipocyte à partir des cellules souches ou d'un défaut dans la voie de synthèse des triglycérides à partir des acides gras et du glycérol phosphate dans l'adipocyte, d'un défaut, par exemple, aussi de structure ou de fonction de cette gouttelette lipidique qui ne va plus pouvoir stocker correctement les lipides ou ne plus pouvoir les libérer au bon moment, par exemple. Et d'autres mécanismes de dysfonction adipocytaire. En réalité, il y a 20 à 30 gènes qui ont été retrouvés comme responsables de l'hypodystrophie. Donc, vous voyez, c'est une maladie à la fois rare, mais aussi hétérogène. Et il y a aussi des formes qui ne sont pas d'origine génétique, qu'on dit des formes acquises, et qui peuvent résulter de l'agression de l'adipocyte par plusieurs causes, par exemple des maladies auto-immunes. Voilà. Et cette dysfonction de l'adipocyte, en fait, elle touche non seulement ses capacités métaboliques, gestion des stocks de triglycérides, mais aussi ses capacités endocrines. Et on sait que l'adipocyte, en effet, c'est une cellule qui est capable de produire de nombreuses hormones qui agissent à distance dans l'organisme. Et l'une de ces hormones importantes, c'est la leptine, qui régule la satiété. Et globalement, la leptine est sécrétée de façon proportionnelle à la quantité de tissu adipeux corporel et elle régule la satiété au niveau central. Ce qui fait que les patients lipodystrophiques qui ont un déficit en leptine qui est globalement proportionnel à leur déficit en tissu adipeux présentent aussi une hyperphagie, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à maîtriser leur satiété. Et bien sûr, ça va aggraver leurs problèmes métaboliques, en particulier le diabète et l'hypertriglycéridémie.
Et qui sont les patients touchés par cette maladie rare, professeur Vigouroux ? Est-ce qu'il y a une typologie particulière chez ces patients ?
Alors, les lipodystrophies peuvent atteindre toutes les populations. Dans les formes génétiques qui se transmettent sur le mode dominant, par exemple le syndrome de Dunigan, qui est dû à des variants du gène de la lamine AC, qui est probablement la forme la moins rare des lipodystrophies génétiques, et qui intervient d'ailleurs dans la différenciation des cellules, eh bien on va retrouver des cas familiaux dans toutes les générations. Alors, ces cas peuvent être diagnostiqués ou non, il faut savoir les rechercher, parce qu'on peut avoir la notion d'un diabète inhabituel dans la famille, d'épisodes de pancréatite aiguë, de maladie du foie, d'hypertrophie musculaire aussi. Je n'ai pas parlé de ce signe, mais c'est aussi un signe qui est associé à la perte du tissu adipeux, l'augmentation au contraire des muscles. Mais on n'a pas toujours la notion dans les familles d'une lipodystrophie très clairement identifiée. Et puis, il y a des formes récessives, des formes autosomales récessives. Et là, un facteur de risque, ça va être la consanguinité parentale dans ces familles où donc les deux allèles du gène sont touchés. Il faut y penser finalement devant des situations assez diverses. C'est le pédiatre, l'endocrinologue qui vont y penser devant un diabète atypique, devant un taux de triglycérides élevé, des troubles gynécologiques par exemple. Ça peut être aussi le cardiologue devant des cardiopathies particulières, le gynécologue. Le dermatologue avec des acanthosis nigricans qui sont parfois mal reconnus ou particuliers. Les hépatologues aussi peuvent adresser des patients devant finalement une hépatomégalie avec une stéatose du foie qui peut même conduire à la cirrhose dans certains cas.
Et en l'absence de traitement, quelle est l'évolution de cette maladie ?
Alors, c'est surtout une évolution vers le diabète. Les patients peuvent rester longtemps insulino-résistants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de diabète, mais la glycémie est maintenue dans le sang normal au prix d'une hyperinsulinémie. Et puis, petit à petit, le diabète va apparaître, le plus souvent vers l'adolescence. Et donc, bien sûr, on pourra avoir toutes les complications du diabète qui peuvent se manifester. Ce sont des diabètes difficiles à équilibrer et donc c'est une évolution fréquente de cette maladie, le diabète. Donc j'ai parlé aussi des pancréatites aiguës, des maladies du foie, donc qui peuvent évoluer vers la fibrose, vers la cirrhose, si la stéatose n'est pas maîtrisée. Et puis aussi donc les manifestations gynécologiques, le syndrome des ovaires polykystiques, l'hyperandrogénie chez les femmes.
Et pour conclure, professeur Vigouroux, en cas de signes évocateurs, à qui adresser ces patients ?
Alors, dans notre réseau maladies rares, PRISIS, on a plusieurs centres sur l'ensemble du territoire français, dans les services d'endocrinologie et de pédiatrie, qui sont des centres de compétences avec des médecins qui sont habitués à prendre en charge ces maladies-là. Et donc, on a le centre de référence de l'hôpital Saint-Antoine, comme vous l'avez dit, mais aussi 21 centres de compétences sur tout le territoire, y compris sur l'île de la Réunion, qui sont à même de prendre en charge et d'investiguer ces patients. Et nous espérons que notre réseau sera prochainement renforcé avec d'autres centres. Et on trouve aussi, en particulier à destination des généralistes, des protocoles de diagnostic et de soins que nous avons rédigés sur ces maladies qui sont disponibles en libre accès sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et pour l'instant, nous avons publié le PNDS correspondant au syndrome de Dunigan, qui donne donc les grandes lignes de la prise en charge et des explorations de ces patients. Et très prochainement, le PNDS concernant la lipodystrophie généralisée congénitale sera publié sur ce site. Nous avons aussi un site internet, PRISIS, qui peut aider à trouver les informations nécessaires. On discute par exemple des dossiers difficiles en discussion collégiale, pluridisciplinaire. Et puis, il y a aussi deux associations de patients qui sont importantes pour soutenir les patients et pour les guider. Il s'agit de l'Association française des lipodystrophies, AFLIP, et de l'association Vaincre Dunigan, qui est plus particulièrement dédiée à cette forme-là de lipodystrophie.
Eh bien, merci mille fois, professeur Vigouroux, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare que sont les lipodystrophies. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.